n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous partez d'une actualité. Quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, saviez-vous que Sartre et Camus n'ont jamais soutenu de thèse ? Saviez-vous aussi que Mallarmé s'est lancé dans une thèse sur la linguistique pour calmer ses crises existentielles ? Ou encore que Victor Segalen avait hésité entre un doctorat sur la médecine de l'Égypte ancienne et l'hystérie et l'hypnotisme chez Wagner ? Bref, on pourrait dire au fond que tout cela importe peu, que l'important c'est ce qui reste, l'œuvre, thèse ou pas, et pourtant la question est cruciale, jusqu'où la pensée, l'écriture et la méthode d'un auteur doivent-elles avoir affaire avec l'université, ses codes et son autorité ?
Est-ce que vous avez le sens de la philosophie, de la science philosophique ?
J'ai été professeur de philosophie pendant quelques années, de sorte que j'ai gardé un très mauvais souvenir de ce que j'enseignais. Il me semblait qu'on est forcé, dès qu'on est professeur, de dire, d'affirmer une foule de choses dont on n'est pas certain. Au fond, je me sentais menteur, c'est un sentiment très désagréable. Évidemment, je n'étais pas fait pour être professeur. Quand je suis entré comme rédacteur au ministère de l'Instruction publique, je me suis senti extrêmement heureux pendant un an. Je me sentais libre, je me sentais lancé en pleine aventure, je n'avais plus de conseils à donner, je n'avais plus de gens à instruire.
Peggy, Barthes et avant cela Poland, dont on vient d'entendre la voix, voici les trois figures choisies par Charles Cousty dans cet ouvrage intitulé Antithèse et qui était d'abord donc une thèse, et c'est mon actualité de son journal de la philo. Peggy, Barthes et Poland, trois figures pour mettre la littérature, lieu de la créativité, de la critique, du jeu et de l'affranchissement des normes, à l'épreuve du genre le plus académique et professoral qui soit, la thèse. Alors Charles Peggy, par exemple, décide d'entreprendre, lui en 1909, une thèse sur, je cite, de la situation faite à l'histoire dans la philosophie générale du monde moderne. C'est une thèse, en fait, pour régler ses comptes avec la Sorbonne, sa vision scientiste, horizontale et plate de l'histoire. C'est une thèse insoutenable dans tous les sens du terme, bien sûr. Et puis, Jean Paulhan, donc pour le citer à nouveau, lui, eh bien, il a mis plus de 35 ans à ne pas faire de thèse, se perdant dans son sujet, c'était la sémantique du proverbe, et se perdant, lui, comme sujet. Et c'est bien la question, comment écrire dans le cadre d'une thèse ? Pour qui ? À qui ? Qui écrit ? Et sur quoi ? Et surtout, pourquoi ? Pour être reconnu ? Pour cocher des cases ? Par goût intellectuel ? Par plaisir ? Pour soi ? Pour les autres ? Pour la pensée ? Alors, il ne s'agit pas d'opposer dans ce livre deux sphères déjà hermétiques, l'université face à l'écriture, même si l'on peut penser à cette tendance des écrivains à la misologie, mais de penser leur relation. Écrivain et même philosophe, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on l'est à un moment donné ? L'institution avec ses étiquettes académiques et l'université avec ses diplômes peuvent-elles, ont-elles à légitimer un auteur ?
Dans le champ de l'intellectuel, il faut distinguer soigneusement le travail tel qu'il est façonné et rendu obligatoire par la scolarité, quelle qu'elle soit, du lycée à l'université, qui est un travail qui est en général profondément nauséeux, et avec lequel des générations et des milliers d'écoliers et d'étudiants luttent désespérément, du travail auquel on accède soi-même plus tard quand on crée, comme on disait autrefois. C'est un problème de création. On pourrait dire maintenant quand on produit, quand on accepte de se mettre dans un projet de production. Alors à ce moment-là, le travail, bien sûr, devient une jouissance.
Avec Charles Peggy et Jean Paulhan, Roland Barthes est la troisième figure sur laquelle s'arrête Charles Cousty. Après l'insulte tétique à la Sorbonne de l'un et les errances de l'autre, Barthes est celui pour qui la thèse est le lieu en fait d'un désir contrarié. Le lieu, ou plutôt le corps, tant Barthes a insisté moins sur le sujet, il a autant travaillé Racine que la mode et on ne lui connaît aucun thème de prédilection, que sur le corps d'une recherche, plus précisément sur le corpus d'une recherche, sur sa matière et sur la manière dont il se fabrique et dont il sculpte en retour notre désir. La thèse ou le corps érotique pour Barthes, donc. Et là est le déplacement qu'il insuffle. On passe avec lui du sujet de la thèse au corps d'une thèse. On passe de la question jusqu'où l'université, l'académie et l'institution peuvent-elles décider de qui est écrivain ou philosophe à celle-ci. Jusqu'où peuvent-elles décider de ce que sont une écriture littéraire ou une pensée philosophique. Après, pourquoi et pour qui écrit-on ? C'est donc cette question du comment, d'une écriture ni scolaire ni purement créative, mais entre les deux. comment se jouer des règles d'une thèse, comment questionner, critiquer et rendre subjectif un travail qui doit aussi accepter des codes extérieurs et arbitraires.
Merci Géraldine, et une pensée pour tous nos auditeurs thésards qui sont une là très et qui se battent comme ils peuvent. Georges Vigarello, peut-être une histoire du corps des thésards serait à venir, c'est une bonne
ou
idée.
Ou du corpus intellectuel.
Oui. Alors dites-nous le livre que vous nous conseillez.
Antithèse, Mallarmé, Peggy Paul en Céline Barthes, c'est par Charles Cousty et ça vient de paraître aux éditions Gallimard.
Merci Géraldine et bon courage à tous. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.